Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques, DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective.
Exercice 1. Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord une minute pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses.
Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez.
Première écoute.
Bonjour et bienvenue à l'école des savoirs. Au milieu des larmes et des angoisses des parents, je sais pas pourquoi je le dis avec autant de sourire d'ailleurs, en ce jour de rentrée scolaire en France, c'est vrai qu'on est tous passés par là. Enfin du moins en ce qui concerne l'école maternelle, pour ceux donc dont c'est le tout premier jour d'école, cette fameuse école maternelle française, unique au monde ou presque, et qui accueille tous les enfants dès 3 ans et même avant. Et c'est ce avant 3 ans qui fait débat depuis plusieurs années en France. Des enfants donc de moins de 3 ans dans des salles de classe, avec des enseignants et des programmes scolaires. À peu près 200 000 enfants sont concernés, c'est-à-dire un quart des enfants qui ont entre 2 et 3 ans. Il pourrait y en avoir plus parce que les parents sont demandeurs et les enfants sont souvent d'ailleurs sur liste d'attente, faute de crédit public. Alors que l'école, elle, n'est obligatoire en réalité qu'à partir de 6 ans. Alors ces parents ont-ils raison de vouloir à tout prix inscrire leurs enfants avant 3 ans à l'école? Élèves à 2 ans, vénards ou bagnards? Nous en discutons avec nos invités, Claire Brisset, ancienne défenseure des droits des enfants, et Sylvie Chevillard, chercheuse en sciences de l'éducation à Paris 8. Claire Brisset et Sylvie Chevillard, bonjour à toutes deux.
Bonjour.
Claire Brisset, vous avez copiloté avec le pédopsychiatre Bernard Gols un ouvrage collectif qui s'appelle « L'école à 2 ans, est-ce bon pour l'enfant ?» titre qui a le mérite d'être clair, qui rassemble donc des spécialistes de la petite enfance, en majorité d'ailleurs des médecins. Alors pourquoi relancer finalement un débat que l'on croyait un petit peu enterré ces dernières années ?
Enterré, je ne suis pas sûre, parce que je crois qu'il couvait, disons, et que nous avons contribué à quelques-uns à le réanimer, parce qu'on pense que c'est nécessaire. Dans ce livre-là, qui est paru il y a quelques jours chez Odile Jacob, en fait, ce livre est le résultat d'une réflexion collective de plusieurs spécialistes de la petite enfance, parmi les plus renommés, des médecins, vous l'avez dit, psychiatres et pédopsychiatres, mais aussi une enseignante qui a fait toutes ces expériences-là, de la maternelle à l'université, Madame Abdallah Pretzey, et puis le linguiste Alain Bentolila, qui tous apportent leurs points de vue qui sont convergents.
Cri d'alarme.
Qui sont convergents. Ce sont des points de vue convergents qui disent, en gros, hein, puis on va entrer, je pense, dans le détail, que l'école à 2 ans, les parents y recourent essentiellement par défaut, parce qu'il n'y a rien d'autre, donc pas assez de structures.
De place en crèche, de
structures variées qui soient respectueuses des enfants de cet âge-là, c'est-à-dire à tranche d'âge de 3 ans, et que par conséquent, il faut inventer, multiplier les autres structures, puisqu'on est dans un pays où les femmes travaillent beaucoup, et c'est très bien comme ça, 80%.
Non, le livre dit carrément, il y a des risques pour l'enfant.
Le livre dit, mais je pense qu'on va entrer dans le détail, il y a des risques pour l'enfant, pas pour tous bien sûr, mais pour un certain
Alors,
nombre d'enfants,
de risque,
et on est obligé de le dire
maintenant.
risques. Alors des risques qui concernent leur développement, par exemple, je vous cite juste un exemple, ils ont un besoin de sommeil à cet âge qui est absolument incompressible. Et l'école n'est pas le meilleur moyen de respecter ce sommeil. On a tous vu des dortoirs avec des petits matelas par terre, enfin c'est des classes en fait avec des petits matelas par terre. L'école n'est pas adaptée dans sa configuration même physique, y compris ce qu'on leur donne à la cantine, etc. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les enseignants qui y encadrent les enfants sont très peu nombreux, puisque le ratio c'est une enseignante généralement pour, disons, 20-25 enfants et une dame qui l'aide mais qui n'a pas une formation particulière. Cette enseignante n'a reçu dans le meilleur des cas que 10 à 15 heures de formation qui concerne toute l'école maternelle en un an de formation et pas d'enseignement spécialisé pour la tranche d'âge. Concerne les bébés, puisque entre 2 et 3 ans, ce sont des bébés. Et d'autre part, ça c'est surtout ce sur quoi insiste Alain Bentolila, les enfants de cet âge ont une soif d'adulte qui ne peut pas être étanchée par un si faible encadrement, celui que par exemple les crèches ont pour parler à des adultes qui leur parlent la vraie langue. Et que donc toutes ces contraintes qui sont inhérentes à l'institution scolaire, on n'y peut rien, même si bienveillante soit-elle, que toutes ces contraintes peuvent donner des enfants qui sont angoissés ou qui ont l'air au contraire extrêmement agités, qui pourraient ensuite être catalogués dans les hyperactifs, les fameux hyperactifs, et que donc, si on peut faire autrement, il faut faire autrement.
Alors Sylvie Chevillard, vous êtes ex-institutrice, vous avez eu des classes maternelles pendant 25 ans, vous êtes spécialiste de l'école maternelle. Alors l'école à 2 ans, est-ce que c'est bon pour l'enfant, puisque c'est le titre de l'ouvrage collectif de Claire Brice?
Alors moi, je ne poserai pas le problème en ces termes parce que le constat que Madame Brisset vient de faire, je le partage. Effectivement, un adulte pour 30 enfants de 2 ans et même de 3 ans, c'est une ineptie. Il s'agit donc d'un choix politique d'éducation publique. Donc pour avoir moi effectivement commencé ma carrière avec comme institutrice avec 30 enfants de 2 ans, j'ai passé
30 enfants de 2 ans,
c'était, oui, dans une même classe, c'était en 76-77. En région parisienne. Alors, je me suis dit au bout de 3 mois, si c'est ça être institutrice, je change de métier, parce que ce que je voyais au niveau des enfants était effectivement terrible, comme le peut le constater Madame Brisset. C'est donc pourquoi, dans le cadre de l'éducation nationale, je suis restée à l'école maternelle et ensuite j'ai continué de me bagarrer pour transformer l'idée qu'on pouvait se faire de l'accueil des jeunes enfants et des très jeunes enfants à l'école maternelle.
Et donc vous dites, Sylvie Chevillard, c'est pas mauvais pour l'enfant être à l'école dans une salle de classe avant 3 ans?
Dans des conditions acceptables, c'est-à-dire comme certaines expérimentations qui ont été menées et qui, je crois qu'on y reviendra plus tard, quelquefois sont supprimées faute de moyens, on a pu montrer qu'il y avait des conditions acceptables d'accueil d'enfants de moins de 3 ans.
Donc quelles sont ces conditions
acceptables? Dans le cadre, y compris de l'école.
Seconde écoute.
Bonjour et bienvenue à l'école des savoirs. Au milieu des larmes et des angoisses des parents, je sais pas pourquoi je le dis avec autant de sourire d'ailleurs, en ce jour de rentrée scolaire en France, c'est vrai qu'on est tous passés par là. Enfin du moins en ce qui concerne l'école maternelle, pour ceux donc dont c'est le tout premier jour d'école, cette fameuse école maternelle française, unique au monde ou presque, et qui accueille tous les enfants dès 3 ans et même avant. Et c'est ce « avant 3 ans » qui fait débat depuis plusieurs années en France. Des enfants donc de moins de 3 ans dans des salles de classe, avec des enseignants et des programmes scolaires. À peu près 200 000 enfants sont concernés, c'est-à-dire un quart des enfants qui ont entre 2 et 3 ans. Il pourrait y en avoir plus parce que les parents sont demandeurs et les enfants sont souvent d'ailleurs sur liste d'attente, faute de crédit public. Alors que l'école, elle, n'est obligatoire en réalité qu'à partir de 6 ans. Alors ces parents ont-ils raison de vouloir à tout prix inscrire leurs enfants avant 3 ans à l'école, élèves à 2 ans, vénards ou bagnards? Nous en discutons avec nos invités, Claire Brisset, ancienne défenseure des droits des enfants, et Sylvie Chevillard, chercheuse en sciences de l'éducation à Paris 8. Claire Brisset et Sylvie Chevillard, bonjour à toutes deux.
Bonjour.
Claire Brisset, vous avez copiloté avec le pédopsychiatre Bernard Gols un ouvrage collectif qui s'appelle « L'école à 2 ans, est-ce bon pour l'enfant ?» titre qui a le mérite d'être clair, qui rassemble donc des spécialistes de la petite enfance, en majorité d'ailleurs des médecins. Alors pourquoi relancer finalement un débat qu'on croyait un petit peu enterré ces dernières années ?
Enterré, je ne suis pas sûre, parce que je crois qu'il couvait, disons, et que nous avons contribué à quelques-uns à le réanimer, parce qu'on pense que c'est nécessaire. Dans ce livre-là, qui est paru il y a quelques jours chez Odile Jacob, en fait, ce livre est le résultat d'une réflexion collective de plusieurs spécialistes de la petite enfance, parmi les plus renommés, des médecins, vous l'avez dit, psychiatres et pédopsychiatres, mais aussi une enseignante qui a fait toutes ces expériences-là, de la maternelle à l'université, Madame Abdallah Pretzey, et puis le linguiste Alain Bentolila, qui tous apportent leurs points de vue qui sont convergents.
Cri d'alarme.
Qui sont convergents. Ce sont des points de vue convergents qui disent, en gros, puis on va entrer, je pense, dans le détail, que l'école à 2 ans, les parents y recourent essentiellement par défaut, parce qu'il n'y a rien d'autre, donc pas assez de structures.
De places en crèche,
notamment. De places de crèche, de places de structures variées qui soient respectueuses des enfants de cet âge-là, c'est-à-dire à tranche d'âge 2-3 ans, et que par conséquent, il faut inventer, multiplier les autres structures, puisqu'on est dans un pays où les femmes travaillent beaucoup, et c'est très bien comme ça, 80%.
Non, mais le livre dit carrément, il y a des risques pour l'enfant.
Le livre dit, mais je pense qu'on va entrer dans le détail, il y a des risques pour l'enfant, pas pour tous bien sûr, mais pour un certain
Alors,
nombre
quel genre
d'enfants,
de risque,
et on est obligé de
mais
le dire.
Genre de risques.
Alors des risques qui concernent leur développement, par exemple, je vous cite juste un exemple, ils ont un besoin de sommeil à cet âge qui est absolument incompressible. Et l'école n'est pas le meilleur moyen de respecter ce sommeil. On a tous vu des dortoirs avec des petits matelas par terre, enfin c'est des classes en fait avec des petits matelas par terre. L'école n'est pas adaptée dans sa configuration même physique, y compris ce qu'on leur donne à la cantine, etc. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les enseignants qui y encadrent les enfants sont très peu nombreux, puisque le ratio c'est une enseignante généralement pour, disons, 20-25 enfants et une femme, une dame qui l'aide mais qui n'a pas une formation particulière. Cette enseignante n'a reçu dans le meilleur des cas que 10 à 15 heures de formation qui concerne toute l'école maternelle en un an de formation et pas d'enseignement spécialisé pour la tranche d'âge concerne les bébés puisque entre 2 et 3 ans ce sont des bébés. Et d'autre part, et ça c'est surtout ce sur quoi insiste Alain Bentolila, les enfants de cet âge ont besoin, ont une soif d'adulte qui ne peut pas être étanchée par un si faible encadrement, celui que par exemple les crèches ont pour parler à des adultes qui leur parlent la vraie langue. Et que donc toutes ces contraintes qui sont inhérentes à l'institution scolaire, on n'y peut rien, même si bienveillante soit-elle, que toutes ces contraintes peuvent donner des enfants qui sont angoissés ou qui ont l'air au contraire extrêmement agités, qui pourraient ensuite être catalogués dans les hyperactifs, les fameux hyperactifs, et que donc, si on peut faire autrement, il faut faire autrement.
Alors Sylvie Chevillard, vous êtes ex-institutrice, vous avez eu des classes maternelles pendant 25 ans,
c'est ça, oui.
Vous êtes spécialiste de l'école maternelle. Alors l'école à 2 ans, est-ce que c'est bon pour l'enfant, puisque c'est le titre de l'ouvrage collectif de Claire Brisset?
Alors moi, je ne poserai pas le problème en ces termes parce que le constat que Madame Brisset vient de faire, je le partage. Effectivement, un adulte pour 30 enfants de 2 ans et même de 3 ans, c'est une ineptie. Il s'agit donc d'un choix politique d'éducation publique. Donc pour avoir moi effectivement commencé ma carrière avec comme institutrice avec 30 enfants de 2 ans, j'ai passé
30 enfants de 2 ans,
c'était, oui, dans une même classe, c'était en 76-77. Hein. En région parisienne. Alors, je me suis dit au bout de 3 mois, si c'est ça être institutrice, je change de métier, parce que ce que je voyais au niveau des enfants était effectivement terrible, comme le peut le constater Madame Brisset. C'est donc pourquoi, dans le cadre de l'éducation nationale, je suis restée à l'école maternelle et ensuite j'ai continué de me bagarrer pour transformer l'idée qu'on pouvait se faire de l'accueil des jeunes enfants et des très jeunes enfants à l'école maternelle.
Donc vous, vous dites, Sylvie Chevillard, c'est pas mauvais pour l'enfant être à l'école dans une salle de classe avant 3 ans?
Avant 3 ans, dans des conditions acceptables, c'est-à-dire comme certaines expérimentations qui ont été menées et qui, je crois qu'on y reviendra plus tard, quelquefois sont supprimées faute de moyens, on a pu montrer qu'il y avait des conditions acceptables d'accueil d'enfants de moins de 3 ans.
Donc quelles sont ces conditions acceptables?
Y compris de l'école.
Exercice 2.
Vous allez entendre une seule fois un enregistrement sonore de 1 minute 30 à 2 minutes. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Après l'enregistrement, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Répondez en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Lisez maintenant les questions.
C'est parti pour les vacances et c'est reparti pour la question des vacances. Faut-il ou non faire des devoirs pendant l'été? Réponse en 3 conseils. D'abord, n'attendez pas de miracle des vacances. Plusieurs études ont montré que la période estivale renforce les tendances préexistantes. En caricaturant un peu, les meilleurs élèves deviennent encore meilleurs et les moins bons oublient le peu qu'ils ont appris. Explication, les parents d'enfants déjà cultivés et forts en thème auront tendance à leur offrir de nouveaux modes d'accès à la connaissance pendant les vacances, des modes d'accès moins scolaires, plus tournés vers la découverte, c'est la visite du musée, l'explication géologique quand on visite un parc national ou bien encore les lectures hors programme. Les parents d'enfants qui peinent à l'inverse ont tendance à essayer de faire refaire le programme aux enfants au risque de les enfermer dans leurs incompréhensions et dans leurs blocages, a fortiori quand les parents tiennent un discours divergent de celui de l'enseignant, ce qui déstabilise beaucoup les plus petits. Ensuite, dites-vous que toute occasion d'apprendre est bonne à saisir, quel que soit le domaine dans lequel elle s'exerce. Réaliser un herbier, bricoler, lire évidemment, mais aussi parler avec les habitants d'une région, de son histoire, de son économie, de ses modes de vie, potentiellement tout est source d'enrichissement. Bref, profitez-en pour ne pas enfermer les apprentissages dans les pages d'un cahier de vacances et dans un temps limité. Allez, un quart d'heure de dictée et puis après on va à la piscine. Enfin, les vacances sont faites pour se reposer, alors pas de zèle. Plusieurs enseignants conseillent de réviser un peu en début de vacances pour essayer de fixer les connaissances encore fraîches qui ont été acquises pendant l'année. Et puis ensuite d'attendre 15 jours ou 3 semaines avant la rentrée pour s'y remettre. Cette fois pour rafraîchir peu à peu ses acquis, pour réactiver en quelque sorte la mémoire. Entre les deux, repos, détente, sport, mais pour ça, généralement, parents et enfants n'ont pas besoin de conseils. Alors, bonnes vacances.
L'épreuve de compréhension orale est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension écrite.